Vous écoutez
RMC.
Alors, il faut qu'on fasse un détour par New York. Ah. Eric Salio est là que pour l'US Open de tennis. Eric, que se passe-t-il?
Écoute, pour vous notifier la qualification d'un Français pour le troisième tour de cette US Open. C'est pour ça que je vous ai appelé. C'est Benjamin Bonzi qui vient de sortir en 4-7 l'Américain Chris Eubanks, que la révélation
qui a brillé à Wimbledon.
Absolument. Et bien là, il a rangé ses raquettes. 7-6, 2-6, 6-2, 7-6 pour Benjamin Bonzi, qui vraiment ça fait plaisir pour lui parce qu'il s'était vilainement blessé à Monte-Carlo au poignet gauche. Il a broyé du noir et là il retrouve enfin la possibilité de jouer normalement. Donc il est au troisième tour et il affrontera dans deux jours un jeune Suisse sorti des qualifications, Stricker, qui a sorti Tsitsipas.
Eric, c'est bien gentil tout ça, mais tu sais ce qu'est le grand rendez-vous du week-end quand même? C'est pas à Flushing Meadows que ça se passe.
Ah, c'est où? Alençon quand?
Ah, c'est le derby, Flair Alençon.
C'est pas vrai.
Bah oui. De retour du derby en National 3, c'est samedi 18h. Flair, Eric est originaire de Flair, je rappelle à nos auditeurs qui le savent évidemment.
Ah bon? J'espère qu'on c'est marrant qu'il soit originaire de Flair et qu'il soit aussi mauvais en Paris.
On a travaillé.
Très bon. Il y a un truc quand même.
On a travaillé à West France.
Eric, Tsitsipas là. C'est quand même incroyable la période qu'il traverse.
Il est très mauvais à l'US Open, il a des stats incroyables.
Ouais, mais ça fait longtemps là qu'il est plus dedans. Moi
il est amoureux, donc
je vais dire un truc tout con, mais et parce que ça la concerne aussi, mais les deux depuis qu'ils sont ensemble, c'est n'importe quoi.
C'est qui l'amoureuse?
Badossa. Ils sont un couple merveilleux, ultra glamour, ils sont beaux tous les deux et tout, puis, mais ça les a, je crois, bien sortis de leur métier.
L'essentiel, c'est les trois.
Permettez-moi d'avoir une pensée pour Caroline Garcia, puisqu'on a appris aujourd'hui qu'elle a perdu sa grand-mère la veille de son premier tour, donc ce qui explique beaucoup de choses sur son élimination.
Nous te rejoignons dans ta pensée pour elle.
Merci Eric.
Manarino, ça va passer ou pas?
Manarino a 7 partout et contre le Hongrois Marochan, ça va passer, bien sûr. Donc,
après ce que vient de nous dire Gilbert, je suis très inquiet pour Manarino.
Exactement. Salut Eric, à plus. Bon, je ne sais même pas par où démarrer par Lyon, parce que là, ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui est absolument fou. Donc hier soir,
l'histoire est hallucinante.
Je démarre par hier soir. Donc Textor explique à des journalistes, dont Edouard G, il était avec nous hier soir, que voilà, Aulas lui a fait le fameux coup de la pièce jointe, c'est-à-dire qu'il lui envoie un mail. Version Textor, hein, bien sûr. Il envoie un mail où, en fait, en bout de pièce jointe, il y avait les joueurs à vendre pour passer devant la DNCG. Textor dit, assez honnêtement, moi, je n'ai pas vu. J'aurais peut-être pas mis 500 millions sur la table si j'avais tout vu de la pièce jointe. J'aurais peut-être mis plus d'argent dans les comptes du club et moins pour la vente. Aulas se vexe dans la nuit, il tweet, s'il a vraiment dit ça, j'attaque en diffamation. Ce matin, il le fait. Il attaque en diffamation. Derrière, on apprend qu'il a fait une demande auprès du tribunal de commerce pour bloquer les comptes du club, pour récupérer de l'argent que Textor lui doit, parce que c'est les actions que Textor doit payer à Aulas. Voilà. Et ce soir, ça continue avec une interview d'Aulas à la AFP, à l'équipe aussi, je crois, qui remet une louche. Pendant ce temps-là, Salvatore Cucci, qui est l'homme de Textor à Lyon.
Pas Santiago?
Santiago, pardon. Santiago,
à chaque fois,
Cucci.
Tu te fous de ma gueule parce que je lui esquinte son nom. Et voilà ce que tu viens
je
de
m'excuse
faire.
Auprès de Santiago Cucci. Explique ce soir qu'Aulas utilise une boîte de com pour dénigrer l'OL. Enfin, on en est voilà, sur une guerre incroyable.
Et donc, ma théorie du mois de juin, du savonnage de planche, même auprès de la DNCG, ça va prendre corps un peu, non, ma théorie, quand même.
Est-ce que c'est du savonnage de planche ou est-ce que Aulas a été un vendeur extraordinaire en étant malin?
Dans l'interview du soir, Aulas dit même qu'il est intervenu en avant auprès de la DNCG pour faciliter c'est l'info du soir qu'il a donné dans l'interview à l'équipe.
Donc là c'est guerre ouverte entre les deux. Dans ton expérience de dirigeant, t'as déjà vécu un truc comme ça?
Et de vente de club, il faut remonter à la cause. C'est-à-dire que la cause première, on l'oublie, c'est quand Pathé et l'actionnaire chinois, qui sont rentrés à des moments différents de l'OL, qui avaient chacun 20% du capital, parce qu'il faut bien se remémorer le capital d'OL Group pour comprendre ce qui se passe. Et ont décidé, sans prévenir Jean-Michel Aulas, apparemment, de donner un mandat à une banque pour vendre leur participation conjointement. Il faut savoir que le reste du capital est en bourse. C'est une société qui est en bourse, qui était rentrée en bourse plus d'une dizaine d'années, avec une valeur d'action, avec des informations. Si on veut avoir des informations sur l'OL, tout est public, c'est obligatoire, indépendamment de ce qu'on peut trouver en allant sur les comptes publiés par la DNCG, qui sont aussi extrêmement clairs. Donc, il faut bien savoir qu'à ce moment-là, Jean-Michel Aulas, par sa holding, a 27% du capital et a deux solutions. Parce qu'on lui met un couteau dans les reins. C'est-à-dire, est-ce que vous nous rachetez, vous, ces participations-là, ou est-ce que vous sortez avec nous? Ou on va vendre, on va prendre le contrôle, parce que ça déclenche automatiquement ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire une offre publique d'achat sur le reste des actions qui sont en bourse pour que les petits actionnaires ne soient pas lésés. Et donc, la cause première, elle est là. Jean-Michel Aulas n'a jamais donné de mandat pour vendre le club. Et il y a été, à mon avis, contraint, parce que lui n'a pas pu, ou n'a pas voulu.
Il dit d'ailleurs ce soir dans les interviews, j'ai pas eu le choix.
Il n'a pas eu le choix. C'est pour ça qu'il faut revenir à la cause.
Une des fausses idées qu'on avait, nous, c'est qu'on a tout, on a toujours tous pensé, je comprends bien ce que dit Luc, qu'Aulas était le grand patron de Lyon et qu'il avait le capital de Lyon. Or, Aulas était le patron d'un club détenu principalement par Seydoux et par des Chinois.
Mmh. Ouais, enfin, non, ils avaient chacun 20%. Non, c'était un multi-actionnariat.
Majoritaire quand même.
Il y avait un pacte d'actionnaires. C'est un excellent manager, Jean-Michel Aulas, et c'est un grand chef d'entreprise. Et donc, il consultait ses actionnaires. En plus, les comptes étaient publics. Donc, le management de l'OL qui était pris en exemple, en tout cas, a toujours été non contesté jusqu'à ce moment. Et il faut comprendre aussi pourquoi il décide à ce moment-là de vendre. Parce qu'il y avait un plan qui avait été présenté par Jean-Michel Aulas avec le nouveau stade, de l'endettement, le remboursement d'obligations qui s'appellent des Océanes que les actionnaires devaient rembourser à ceux qui avaient prêté, parce qu'une Océane c'était donc un prêt. Donc il y avait une pression financière sur l'OL à ce moment-là. Et les deux actionnaires qui ont décidé de sortir ont contraint Jean-Michel Aulas à vendre avec eux. C'était la moins mauvaise des solutions. Et rappelez-vous, ça s'est pas fait en deux minutes.
Il a eu le temps quand même, Luc, à ce moment-là, de se renseigner sur qui était cet acheteur.
C'est deuxième étape.
C'est à ce moment-là qu'il ne disait rien, que tout était,
parce qu'il fallait vendre d'abord,
en ordre, parce qu'il a soigné sa sortie bien comme il fallait, avec une somme d'argent bien rondelette, sauf que...
Alors, maintenant, il y a la deuxième phase. Voilà. C'est le prix auquel l'opération s'est faite, la valeur sur laquelle elle s'est faite, et le montage sur l'opération. Il faut bien se rendre compte que, sur l'opération, John Textor, par sa holding, n'est pas le seul acquéreur.
Ah oui.
Il a emprunté. Et il a emprunté parce que d'autres co-actionnaires qu'il avait trouvés n'ont pas été validés, ou, quand ils ont examiné les comptes, ont considéré peut-être que le prix que John Textor était prêt à payer était peut-être trop élevé. Et donc, il s'est fait prêter de l'argent. Si je veux pas comparer parce que c'est pas exactement pareil, mais c'est le même mécanisme que Gérard Lopez à Lille. Il s'est fait prêter de l'argent par Elliott. Et à un moment donné, celui qui prête, et qui prête beaucoup, d'après ce que j'ai lu, c'est près de 400 millions d'euros. Ouais. Sur une opération globale valorisée à 720, 730 millions d'euros. Mais le prix des actions, d'abord, c'est bien décomposé, si tu veux. C'est 120 millions d'euros. Le prix des actions. Après, il y a le prix des Océanes, c'est-à-dire je rembourse, je m'engage à rembourser plus les garanties données
le
aux banques.
Et le reste, c'est quoi? C'est la valorisation joueur, tout c'est ça.
Tout ça fait une valorisation. Alors, pour décider de mettre cet argent, parce que même si tout ne va pas dans la poche d'Aulas et des actionnaires, c'est de l'argent qui est mis en face. Par exemple, les banques qui ont prêté sur le stade avaient demandé des garanties aux actionnaires. Il fallait remplacer, comme sur Bordeaux, les garanties données par M6, par le nouvel acquéreur. Parce que si le club ne peut pas rembourser, ses actionnaires, quand ils empruntent, donnent des garanties aux banques. Voilà. Donc, ils avaient Aulas, Seydoux et autres. Là, ils ont des nouveaux actionnaires qui ont dû. Et d'ailleurs, il y a eu une longue négociation qui a fait qu'ils ont quand même payé 50 millions d'euros aux banques, qui ont gardé un certain crédit. Donc, le club est endetté. Le club a des actifs, sinon ils n'auraient pas payé ce prix-là. Quand on regarde les comptes, les immobilisations du club, c'est 350 millions d'euros. Qu'est-ce que c'est que ces 350 millions d'euros? C'est ça qui fait qu'un acquéreur se dit, bon...
Il y a du blé, quoi.
Ce sont les actifs joueurs.
Il y a de la valeur.
Pour une grande partie. Donc, il faut analyser.
Pas le stade.
Alors, le stade, c'est aussi un actif, c'est une valeur autre. Enfin, c'est dans une autre rubrique, mais il y a un endettement. Et le stade, il sert à quoi? Il sert à faire des recettes. Les recettes, on les connaît. Sauf qu'il n'est pas exploité, le stade de Lyon, au maximum, parce que le club ne fait pas la Ligue des Champions. Et on en revient à la cause première, vendue dans le business plan initial à Pathé et aux actionnaires chinois, c'est que Lyon doit faire deux fois tous les trois ans la Ligue des Champions. Pourquoi? Ça te fait des recettes spectateurs, ça te valorise ton effectif joueur. Donc, Il a réussi quand même à tenir jusque-là en vendant beaucoup de joueurs. C'est-à-dire que chaque année dans les comptes, il faut vendre entre 50 et 100 millions pour équilibrer les comptes. Quand tu regardes les comptes de l'OL des dernières années, c'est des vraies pertes d'exploitation. Ce n'est pas caché. Ça ne veut pas dire que l'entreprise ne vaut pas ça. Ce que ça vaut, c'est ce que l'acquéreur accepte de payer en vrai.
Surtout alors c'est là qu'arrive le fameux coup de la pièce jointe. Parce que là, vraisemblablement, Textor, il n'avait pas compris que pour être dans les clous, il fallait qu'il vende une certaine ligne de jeu. Donc, alors, on avait inclus dans la liste Cherki, Barcola, enfin voilà, c'était les joueurs les plus
banqués. Comment tu fais quand tu passes en DNCG? Je peux dire, parce que j'en ai fait quand même un paquet. Tu présentes tes comptes et tu as un historique. Et tu dis, voilà, ben moi, en vente de joueurs, et voilà l'état de mes contrats, parce que la DNCG a tous les contrats. Tu ne peux pas leur dire, je vais vendre un joueur qui arrive en fin de contrat à la fin de l'année. Donc, ils ont tous les contrats. Donc, il dit, voilà, ma stratégie, c'est de vendre pour tant. OK? Quand tu as un historique où tu as fait ce que tu as dit, et qu'en plus, tu as un actionnariat solide, on ne te demande pas de garantie supplémentaire. Je l'ai dit souvent ici, souvent, les clubs partent avec des prévisionnels de vente de 70 millions d'euros. Il faut les faire. Et tu les fais souvent à la fin de l'année.
On n'est pas sûr. Et Aulas, quand il allait devant la DNCG, de par son antériorité, son passé, sa personnalité,
la situation de la société.
Disaient, ouais, comme c'est Aulas, ça va rouler.
Mais, et d'ailleurs, il le faisait. Alors, il vendait peut-être pas le joueur qui était écrit, mais il vendait un autre. En tout cas, il se débrouillait pour le faire et c'était pas des faux.
Et les mecs le croyaient.
Oui, parce qu'il délivrait, parce qu'il le faisait. Oui. D'accord? Donc, et il y avait donc un, plus les fonds propres de la société, c'est une société extrêmement solide. Il change d'actionnaire. Et ça arrive que ce soit à Lyon, à Valenciennes ou je sais pas où. Donc, la DNCG ne connaît pas le nouvel actionnaire. Elle a validé la transaction. On lui a donné, puisque ça c'est la nouvelle loi depuis 2 ans, puisqu'avant elle avait même pas son mot à dire. Les conditions de la transaction, mais maintenant tout repart à zéro. Donc elle dit à Monsieur Textor, ok, vous nous présentez un projet qui n'est pas celui que présentait Aulas, vous avez l'habitude. Et je pense qu'Aulas, à ce moment-là, a probablement donné à Textor, je ne pense pas qu'il a un agenda secret pour planter Textor, reprendre le club. Je pense pas qu'on en soit. Il a 75 ans ou 76 ans. Je crois pas ça. Et en plus, il a encore 8 ou 10% du capital, donc il avait a priori intérêt à ce que ça marche. Après, il y a eu tout ce qui s'est passé entre eux depuis 2 mois et demi. Parce qu'effectivement, je pense que Textor a pas nécessairement été bien conseillé. Il est pas seul maître à bord. C'est-à-dire que quand il doit remettre de l'argent, il faut qu'il demande à ceux qui l'ont prêté. Voilà. Tout ça a créé, à mon avis, les causes de ce qu'on voit aujourd'hui.
Cette situation de règlement de compte où on retrouve un Jean-Michel Aulas qui est en train de faire beaucoup de mal à son club. Aujourd'hui, pour son intérêt personnel, peut-être teinté d'un peu d'orgueil et de fierté, pas forcément bien placé à ce stade-là, on se retrouve avec un Jean-Michel Aulas qui, sur la saison écoulée, a réussi à se brouiller avec ce que ça peut représenter de symbolique, avec le joueur le plus emblématique de l'histoire du club. Aujourd'hui, il tire contre son club pour ses intérêts. Visiblement, il a peur de pas toucher l'oseille qu'on lui a promis.
D'où le demande de blocage.
Il y a
ce scénario.
Je trouve que cette situation, et il doit rêver secrètement d'un comeback en sauveur. Alors, Textor va-t-en.
C'est nul. Il dit le contraire à l'instant.
Alors, je fasse une petite pause. On a le temps d'intégrer. C'est comme un cours d'économie. Hein. Là, tu sais, c'est la pause. Allez boire un coup et on revient.
Il se voit un sauveur. Reviens.
Il peut maintenant peut-être, mais il veut d'abord coincer Textor vis-à-vis de ses.
Ah oui.
On en parle dans quelques instants.
Il veut gagner la guerre.
À tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.